Bonjour, et si c'était BlackRock qui, dans la coulisse, actionnait la réforme française des retraites? Hier encore, inconnu du grand public français, ce géant de la finance qui gère les retraites par capitalisation de centaines de milliers d'Américains est apparu en pleine lumière du fait de son intérêt ostensible pour cette réforme et particulièrement pour son maître d'œuvre Emmanuel Macron. Alors, hasard des choses, il faisait il y a quelques semaines l'objet d'un documentaire assez sévère sur Arte. Il n'en fallait pas plus pour que, à Arrêt sur Image, nous décidions de tenter de pénétrer dans les entrailles de la pieuvre BlackRock, ce qu'on va tenter de faire avec nos trois invités du jour, Juliette.
Sandra Rigaud, vous êtes maîtresse de conférences en économie, spécialisée sur les investisseurs institutionnels et les questions de régulation financière. En tant que telle, vous vous intéressez notamment au fonctionnement de fonds de pension et fonds d'investissement. Sylvie Matelli, vous êtes économiste et directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique, de Relations Internationales et Stratégiques, pardon. Et vous vous êtes intéressée à BlackRock dans le cadre d'une étude pour le ministère de la Défense sur le financement des entreprises de défense. Et par Skype, nous avons Jordan Pouille. Vous êtes Bonjour. Journaliste et en tant que membre du collectif Investigate Europe, vous avez publié en mai 2018 une longue enquête sur BlackRock pour Mediapart.
Voilà, je dirais que vous êtes parmi les rares journalistes français qui, au jour d'aujourd'hui, se soient vraiment intéressés en profondeur au sujet, mais je ne doute pas que dans les semaines qui viennent, le champ va s'élargir. Alors, je disais que BlackRock est entré dans le débat politique français ces toutes dernières semaines. Évidemment, on vous a préparé un petit échantillon.
On a appris aussi qu'il y a eu de nombreux rendez-vous entre le gouvernement, Emmanuel Macron, Jean-Paul Delevoye et BlackRock, qui est le plus grand fonds de pension privé au monde, qui s'intéresse de très près, de fait, à la réforme. On sait aussi qu'ils ont influencé différentes réformes, notamment la dernière loi Pacte, qui favorise financièrement, avec des crédits d'impôt, ces fonds de pension privés.
BlackRock, qui est une multinationale américaine de la finance, fait du lobbying auprès d'Emmanuel Macron depuis quelques temps déjà, pour que, en ayant des réformes qui baissent les pensions, cela encourage, ou plutôt pousse, contraigne, de plus en plus de gens qui ont les moyens de placer un peu d'épargne, de le placer dans des plans d'épargne retraite privée.
Les Français l'ignorent, mais une partie de la réforme des retraites a déjà été votée. Elle a été votée dans la loi Pacte, et depuis un peu plus d'un mois, votre gouvernement a en effet autorisé le géant des fonds de pension américains, BlackRock, qui pèse plus de 6 000 milliards d'euros, à collecter directement la retraite privée des Français.
Cette ordonnance prévoit, à partir du 1er octobre, que des fonds de pension tels que BlackRock, fonds de pension américain, multinational, va pouvoir bénéficier des cotisations des futurs retraités, pour ceux qui le souhaiteront, pour faire de la retraite par capitalisation.
Le fonds américain BlackRock, reçu en grande pompe à l'Élysée en 2017, se félicite de vos réformes en les qualifiant, je cite BlackRock, de bons plans retraite.
BlackRock a porte ouverte à l'Élysée.
Oui.
Il ne cesse de rencontrer Emmanuel Macron, le Premier ministre, le ministre de l'économie.
Bon. Alors, ce géant qui fait du lobbying, qui a porte ouverte à l'Élysée, alors on a cherché à savoir, mais d'abord, BlackRock, c'est quoi, Juliette ?
Alors, BlackRock, pour résumer, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire d'actifs. La boîte a été fondée en 1988 par Larry Fink, qui en est toujours le PDG aujourd'hui. Ce fonds emploie plus de 14 000 personnes dans le monde et gère plus de 6 000 milliards de dollars, dont un tiers en Europe, comme le rapportait en 2018 Jordan Pouille dans son enquête. Selon l'entreprise elle-même, deux tiers des actifs qu'elle gère dans le monde sont liés à des solutions d'épargne retraite, c'est-à-dire des fonds de pension qu'elle investit. Loin d'être une goutte d'eau dans l'océan, donc dans les finances de BlackRock. Et en France, l'entreprise est actionnaire entre 5 et 10% via plusieurs filiales de nombreuses entreprises. On peut citer entre autres Danone, Vinci, la Société Générale, AXA, Total, Veolia ou encore Publicis.
Tout le gratin du CAC 40.
Hein. Oui.
Voilà.
Oui.
Bon, alors cette histoire de réception à l'Élysée, qu'en est-il ? Porte ouverte à l'Élysée, table ouverte.
Oui, alors Macron et Larry Fink ne sont pas des inconnus l'un pour l'autre. Ils se sont rencontrés plusieurs fois, dès juin 2017 notamment. Et on apprenait par le Canard enchaîné que fin octobre 2017, un salon de l'Élysée avait accueilli plusieurs grands acteurs de la finance mondiale, dont Larry Fink qui présidait cette journée. Ce jour-là, côté gouvernement, la journée avait vu défiler Édouard Philippe, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la ministre du Travail Muriel Pénicaud ou encore la ministre des Transports Elisabeth Borne.
Qui étaient tous venus plancher devant BlackRock.
Qui étaient tous venus échanger avec BlackRock sur la situation du marché du travail, ce genre de thématiques.
Alors, cela dit, en Europe, BlackRock ne s'intéresse pas qu'à la France.
Non, BlackRock a aussi su s'entourer de personnalités politiques de plutôt premier plan. En Angleterre, par exemple, il a parmi ses conseillers George Osborne, qui est un ancien ministre des Finances. L'homme se rend une fois par semaine au siège de BlackRock pour la coquette somme de plus de 730 000 euros par an. Et en Allemagne, c'est l'ancien candidat à la présidence du parti conservateur CDU, de centre droit, donc Friedrich Merz, qui, avant cette candidature, a été président du conseil de surveillance de la filiale allemande de BlackRock.
Alors, jusque-là, on a tout bon pour la présentation de l'objet. C'est parfait, Jordan Pouille, on n'a rien oublié d'important ? Tout va bien. OK, alors, on va entrer dans le vif du sujet. On a dit que... Emmanuel Macron et le gouvernement français s'intéressaient beaucoup à BlackRock. La réciproque est vraie, puisque ce qu'on a découvert en cherchant des traces de BlackRock dans les médias américains, c'est que Fink, le patron de BlackRock, a suivi très près la présidentielle française.
Oui, effectivement. Donc on pouvait le voir évaluer la situation à la veille du premier tour sur Fox Business.
Welcome back. This weekend is the first round of the French election Sunday night. Recent polls indicate that it could come down to the far-right candidate Marine Le Pen and the far-left candidate Jean-Luc Mélenchon. Do you think the results of the election dictate whether or not we will see France move to leave the Eurozone as well?
I don't think so.
You don't.
I mean, I think, I believe the outcome will be a Le Pen and most probably a Macron. That is what we are hearing in the continent as of this morning.
So those two go to round two.
And then if you go to round two, it's very, you know, I would say more people would be gravitating to a Macron.
To the center.
Well, he's actually a socialist. He is a socialist. But he's more of a centrist socialist. It will have a dramatic impact if, as you suggested, the far left candidate and the far right candidate are the final two, and the two center people are out.
That's going to be incredible.
That would be a bad outcome. Le Pen has been consistent in talking about maybe we should leave the Eurozone. So that in itself is pretty frightening. The far left candidate, the communist candidate, truly wants to socialize, truly wants to change the entire fabric of capitalism of France. So let's assume even though a Macron wins, we should pay attention to the amount of people in France who believe in the Le Pen platform, or how many men and women who believe in the far left platform. To me, that's the granularity that has to be discussed. And it really shows you the binary feelings about the future.
It's incredible.
And this is, you know, it's very hard for capitalism to work unless you have more centrists over a long run worldwide.
Voilà, une franchise vraiment ébouriffante. Donc le capitalisme a besoin de centristes partout dans le monde. Bon, je pense qu'on peut déduire de ce qu'on vient de voir que la finance internationale a voté Macron en 2017. Ou est-ce que c'est un...
La finance américaine.
En tout cas, la finance américaine. Mm. Cela dit, ce qui est étonnant, c'est de voir l'attention avec laquelle Larry Fink suit la situation française. Pourquoi la France est si importante pour eux?
La France et l'Europe en général. Aux États-Unis, le système de retraite par capitalisation fait que les marchés financiers sont extrêmement importants, que les sommes en jeu sont extrêmement importantes, d'où l'existence de fonds d'investissement comme BlackRock. Vous vous rendez compte, 7 000 milliards de dollars, c'est deux fois le PIB de la France, deux fois et demi le PIB de la France, donc ce sont des choses énormes. En Europe, c'est pas du tout le cas, à part un petit peu au Royaume-Uni, mais c'est pas du tout le cas. En France, vous avez 15 000 milliards d'épargne, à peine peine 40% est placé sur les marchés financiers et encore pas dans de l'épargne retraite. Donc le pactole potentiel est énorme.
La France, les Français aiment bien la retraite par répartition.
Par répartition,
c'est comme ça.
Tout à fait. Et surtout, les Français épargnent énormément, oui. Et les entreprises ont besoin de financement. Et quand elles cherchent des financements aujourd'hui, elles n'ont accès qu'à des financements américains puisque c'est aux États-Unis qu'ils sont le plus présents. Donc il est clair que pour BlackRock et pour Larry Fink, c'est quelque chose d'énorme que le potentiel européen. Donc c'est pour ça qu'ils s'intéressent à la France et qu'ils regardent ça de très près.
Parce qu'ils veulent convertir. Clairement, ils veulent convertir les Français à l'épargne par capitalisation. Est-ce qu'on peut dire ça, Sandra Rigaud ?
Alors, d'abord, je voudrais revenir sur un point, c'est que la France est vraiment l'exception. C'est le seul pays dans le monde à avoir adopté un système de retraite par répartition. En Europe, toute l'Europe du Nord a adopté un retraite par capitalisation. Donc la France, c'est le dernier pays à conquérir. Et donc là, vous avez une opportunité incroyable, c'est-à-dire que à partir du moment avec cette réforme des retraites, le montant de la retraite va diminuer. Bah, ce manque à gagner pour les Français, eh bien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire c'est éventuellement de placer cette épargne auprès du marché financier, c'est-à-dire ça passe par des fonds d'investissement comme BlackRock qui vont investir pour le compte de ces épargnants.
Mais le marché français pour eux, enfin, je veux dire, c'est peanuts vu des États-Unis. Alors, à l'échelle des États-Unis.
Mais le marché de quoi ? Parce qu'il faut bien, peut-être, dans la présentation, il faut être clair. Il ne faut pas mélanger. BlackRock n'est pas un fonds de pension. BlackRock, c'est un fonds d'investissement, c'est un asset manager, c'est un gestionnaire d'actifs.
C'est quoi la différence ?
Alors, quand on a quand un pays a adopté un système de retraite par capitalisation, vous avez des fonds de pension. C'est-à-dire que les salariés vont cotiser auprès de fonds de pension. Donc le fonds de pension va collecter des cotisations salariales et patronales et ce fonds de pension va l'investir sur les marchés financiers. Mais il ne va pas l'investir directement. Pensez à CalPERS, qui est l'un des plus gros fonds de pension américains, le plus gros des fonctionnaires de l'État de Californie. Il a presque 300 milliards de dollars à gérer. Il ne va pas investir tout seul 300 milliards en des dizaines de milliers d'actions. Il passe par un intermédiaire qu'on appelle un gestionnaire d'actifs, c'est-à-dire un fonds d'investissement, BlackRock. Et le plus gros fonds avec Vanguard, Fidelity et State, ce sont ces fonds-là. Donc en fait, en gros, quand vous avez un peu d'argent, quand vous êtes un fonds de pension, vous n'avez pas tellement le choix. Vous passez par ces asset managers qui sont
d'accord.
énormes. D'accord ? Il ne faut pas mélanger. Donc c'est le fonds de pension et l'asset manager. L'asset manager est un intermédiaire.
Non, mais je suis d'accord. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que la France, pour eux, ce n'est pas des cacahuètes par rapport au marché américain ?
Évidemment. Mais
vous n'êtes pas d'accord.
Disons que ce n'est pas une cacahuète au sens où le patrimoine des Français est évalué à 15 000 milliards d'euros. Donc pour eux, potentiellement, c'est intéressant.
Eux qui gèrent 6 000 milliards.
Tout à fait, ça reste intéressant. Simplement, la double difficulté qu'ils rencontrent, c'est les retraites par répartition en France. Et puis le deuxième aspect, c'est que les Français n'investissent pas dans des actifs productifs, investissent plutôt, aiment bien l'immobilier, aiment bien les livrets, aiment bien l'épargne qui est sûre et sécurisée. Donc il y a l'espoir de BlackRock et de Larry Fink, c'est un double changement, à la fois une orientation progressive vers les retraites par capitalisation, et c'est vrai que la réforme, en tout cas pour les hauts revenus, semble s'orienter vers ça, c'est-à-dire on va vous réduire vos cotisations au-delà d'un certain plafond de revenus, ce qui va faire que vous allez avoir plus d'argent à la fin du mois, donc le placer quelque part. Mais il y a un deuxième écueil auquel ils vont se heurter, c'est est-ce que les Français sont prêts à investir plus directement sur ce type de fonds ?
Alors c'est ce qu'on va essayer de voir. Jordan Pouille, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant ? C'est-à-dire qu'aux yeux de BlackRock, la France est le dernier marché qui reste à conquérir ?
Oui, et ce qui m'intéresse aussi, c'est la dernière partie de ce qu'a dit le précédent interlocuteur. C'est vrai que maintenant, il s'agit auprès des Français de promouvoir les produits financiers. Et on voit beaucoup l'intervention de BlackRock, par exemple, dans les lettres de l'Observatoire de l'épargne. Des documents comme ça qui sont générés par des institutions et qui souvent relaient les recommandations de BlackRock.
Alors, en même temps, vous dites, leur but, c'est de convertir les Français, territoire à conquérir, etc. Quand on les écoute, ce n'est pas le discours qui tienne. Alors, on a retrouvé une vidéo du dirigeant français ou européen de BlackRock, Jean-François Cirelli, Juliette.
C'est ça, donc Jean-François Cirelli, c'est notamment l'ancien conseiller économique de Jacques Chirac, aujourd'hui président de BlackRock, entre autres pour la France. Et on peut l'écouter tout à la fois défendre les intérêts de BlackRock, tout en concédant que la France reste la France.
Quelques mots sur la loi Pacte qui touche notamment l'épargne et l'épargne retraite avec de nouveaux produits, l'assurance vie aussi sur la croissance. Est-ce que ça offre des perspectives pour les sociétés d'investissement en France et notamment pour vous?
Oui, mais je dirais ce que le plus important pour moi dans la loi Pacte sur l'épargne retraite que vous venez de mentionner, c'est qu'on a compris qu'en France, de toute façon, nous ne changerons pas de système. Nous avons un système de retraite par répartition et nous le garderons. Alors après, je crois qu'il faut éduquer un peu les Français. Nous sommes dans cette idée-là, sur l'idée qu'il faut prendre très tôt, réfléchir à sa retraite. Aujourd'hui, vous épargnez pour conserver votre capital ou pour acheter un logement. Il faut que les Français commencent à réfléchir en se disant « mais nous avons intérêt très tôt à réfléchir après 60 ans, après 65 ans ».
Alors quand il explique qu'ils ne changeront pas le système, c'est de la langue de bois, ils avancent masqués, ou vous pensez qu'ils ont vraiment compris qu'ils avaient peu de chances de changer le système ?
On ne va pas basculer vers un système de retraite par capitalisation. Par contre, on peut introduire un peu plus de capitalisation dans les retraites des Français.
Ouais.
Alors moi, je veux intervenir sur deux points. Généralement, ce qui est avancé, c'est qu'on veut inciter les Français à placer leur épargne dans des produits financiers. Pourquoi faire ? Pour financer les entreprises et l'économie. Alors, moi, je veux bien, sauf qu'il y a quand même pas mal de travaux qui montrent que la finance finance pas l'investissement productif. Quand vous regardez les études au niveau macroéconomique, l'investissement productif a diminué depuis 30 ans. Donc, alors qu'on n'a jamais eu autant d'épargne dans l'économie. Donc, il y a un problème. Il y a de l'épargne, il y a des besoins d'investissement, et la baisse, et on observe une baisse d'investissement.
Alors, on va y revenir dans une seconde, si vous voulez bien. Je voudrais juste qu'on termine sur les retraites.
Oui.
On a entendu dire, dans le premier montage tout à l'heure, on a entendu dire que la loi Pacte allait autoriser les entreprises comme BlackRock à collecter directement l'épargne des Français. Ça veut dire quoi, ça, à collecter directement l'épargne des Français? Et quand moi je regarde le document, parce que alors BlackRock, ils observent ça de très près, ils ont produit un document de 14 pages qu'on a lu attentivement et qui détaille la loi Pacte, et je vois par exemple que ce qu'ils préconisent, parmi les mesures qu'ils préconisent, c'est d'imposer à terme la mise en place de dispositifs d'épargne de type auto-enrollment, adhésion automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prélever l'épargne des Français pour faire de la retraite par capitalisation automatiquement sans leur demander?
C'est le cas des fonctionnaires déjà, avec les RAFT, un fonds de pension pour les fonctionnaires de la fonction publique. On n'a pas le choix. On cotise. Hein, alors je ne sais pas quel pourcentage, mais on cotise. Ce que je veux dire, c'est que ces produits, ils existent déjà, les produits d'épargne retraite. Hein. Seulement, le problème de l'industrie financière, c'est que les Français ne cotisent pas auprès. Ils ne veulent pas acheter ces contrats d'épargne retraite. Ils préfèrent soit les placer en contrat d'assurance vie, soit sur le livret A, soit acheter de l'immobilier, grosso modo. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est inciter les Français à cotiser auprès de d'assureurs ce type de contrat d'épargne retraite. Donc il faut trouver des mécanismes d'incitation. Parce que les produits existent déjà. Alors, les mécanismes d'incitation, ça peut être par défaut, on oblige les Français à cotiser 10% de leur salaire ou 5% auprès dans ces contrats-là. Pour l'instant, c'est facultatif, c'est volontaire, ça peut être individuel, ça peut être collectif, hein, les PERC, les PERCO, etc. Mais il faut convaincre les Français de faire ça. Je suis dans la peau de l'industrie financière. Après, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que la différence entre un système de retraite par capitalisation et un système de retraite par répartition, c'est le risque. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un système de retraite par capitalisation, vous avez le risque de marché, de financier. Et là encore, vous regardez l'état de financement des fonds de pension américains, ils sont sous-financés en moyenne.
Ça veut dire quoi ?
Sous-financés, ça veut dire que si on prend en compte la totalité de leurs actifs, ils ne peuvent pas respecter les engagements contractuels qu'ils ont pris auprès des salariés à verser des pensions retraite une fois qu'ils ont atteint l'âge de la retraite. C'est-à-dire qu'on met en balance leurs actifs avec ce qu'ils doivent, ce qu'ils ont, si on liquidait tous leurs actifs sur les marchés, et ce qu'ils doivent aux salariés mais ça s'étale dans le temps, puisque quand vous êtes un fonds de pension, vous collectez une épargne, et votre engagement contractuel, il peut être l'idée de délivrer des pensions de retraite dans 10, 20, 30 ans, c'est-à-dire quand le salarié a atteint l'âge de la retraite. Et donc, quand vous faites le ratio actif sur passif actualisé, vous vous rendez compte que normalement, si c'est financé, c'est 100%. Si ce n'est pas financé, c'est en dessous de 100%.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'ils sont à la merci d'un crack, d'une espèce de ce qu'on appelait un bank run, c'est-à-dire... comme les banques au moment de la crise de 2008, il faut
quand même lire un petit peu et regarder, il ne faut pas perdre la mémoire. C'est-à-dire qu'on a eu deux crises financières en 2001 et 2007. Ça veut dire quoi? C'est moins 30, moins 40%. 2007-2008, c'est moins 40% sur le portefeuille des fonds de pension américains. Comment vous faites pour rattraper ça? C'est impossible. Donc dire que la panacée pour réduire le problème de solvabilité des régimes de retraite, c'est de passer par la capitalisation, c'est faux. Parce que quand vous êtes en capitalisation, il y a du risque, un risque supplémentaire qui est le risque de marché.
Alors, on va y revenir sur les... Juste sur BlackRock, la loi Pacte et le lobbying, de ce que vous savez de Jordan Pouille. Quand BlackRock vient en France, quand l'Élysée organise pour eux une demi-journée avec quatre ministres qui viennent plancher, BlackRock vient faire quoi? Ils viennent juste s'informer du système français ou est-ce qu'on peut parler de lobbying?
C'est difficile à dire. On sait que BlackRock est déjà assez malin pour recruter des cadres dirigeants qui viennent du monde politique. Et c'est ce qu'a mentionné votre consoeur pour la Grande-Bretagne, par exemple.
Et
Jean-François Cirelli, qui dirige la filiale française, lui, c'était l'ancien directeur de cabinet adjoint de Jean-Pierre Raffarin. Donc, on voit en tout cas que c'est très important pour eux d'avoir des gens qui sont déjà bien introduits dans la sphère politique et la sphère dirigeante.
Vous disiez les deux.
Oui, les deux. Ils viennent s'informer et comprendre le système et comprendre où se trouvent les opportunités pour eux. Et puis, ils viennent à la fois pousser certaines décisions qui les arrangeraient, bien évidemment. Ça, c'est clair et net. Et c'est de bonne guerre. Et je crois que tout le monde le fait. Après, reste à savoir quelle est l'influence réelle qu'ils peuvent avoir sur le pouvoir politique à un moment donné, et si le pouvoir politique est en capacité de prendre suffisamment de recul pour aller dans l'intérêt national et l'intérêt des Français avant d'aller dans l'intérêt de ses financiers.
Alors, on a compris que BlackRock, c'était très gros, on a compris qu'ils investissaient dans l'économie d'un certain nombre de pays du monde. Alors, reste à savoir quel type d'investisseur est BlackRock. Et pour essayer de comprendre, on a trouvé, Juliette, une émission qui est un débat sur une chaîne américaine, CNBC, entre deux monstres de la finance, on peut le dire.
Oui, visiblement, Larry Fink ne fait pas que des convaincus. En 2015, le PDG de BlackRock se retrouve face à Carl Icahn, ou Icahn, je ne suis pas certaine, Icahn, un investisseur multimilliardaire qui a été le temps d'un an un conseiller spécial de Donald Trump. Entre les deux, a priori, le torchon brûle. Icahn juge dangereux les investissements effectués par Larry Fink. Et en face, Fink se défend en reprochant à Icahn d'être un investisseur activiste, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, de chercher des gains à court terme pour les actionnaires.
I think BlackRock is an extremely dangerous company.
You're not really blaming Larry for concerns that you have about the high yield.
I am not blaming Larry personally. No, not personally. I'm blaming BlackRock. I don't blame him in the sense that they're doing something nefarious. I blame the whole situation. I don't blame Larry for making money. That's his job. BlackRock should make money. That's what they do. And I really think that the letter is a brilliant obfuscation, but nothing nefarious. But what I am saying is the situation is extremely dangerous in this country. They sell liquidity. There is no liquidity. That's my point. And that's what's going to blow this up. We are going to a cliff. You get this party mobile, and everybody in the party in this mobile, and they're all on this party, they're all having a drink. And in the drink, they're all having this drink and having fun. And you know who's pushing that thing? They're pushing it. It's Larry Fink and Janet Yellen. This party thing is going. Every once in a while, Janet wants to put the brakes on it. And Larry says, nah, let it go. And the people in the party are yelling, no, no, don't touch those brakes. Don't touch, this is fun. And they're moving toward this cliff, see? And the cliff is there. And this thing is going to go over this cliff. Mm-hmm. And you know what's going to destroy it? they're going to hit a black rock. That's right. That's what I'm saying. Okay.
Alors, on rigole bien dans la finance américaine, ça c'est un point. Mais alors, qu'est-ce qui se joue là ? On a du mal à... si on n'est pas spécialiste de la finance, on a du mal à comprendre ce qui se joue entre Larry Fink de BlackRock et cet investisseur multimilliardaire barbu, Larry Carmichael. Qu'est-ce qui se joue entre les deux ?
Moi, déjà, première remarque, c'est que c'est un gérant de hedge fund. Un gérant de hedge fund, c'est un fonds spéculatif. Donc, c'est un fonds spéculatif qui fait la
leçon.
Oui, qui fait la morale à un gérant de fonds d'investissement. Donc là, c'est plutôt. Parce qu'il n'y a pas plus fonds activistes que des hedge funds. Je vous rappelle que c'est eux que c'est.
Alors, attendez, au nom de quoi il lui fait la morale ? C'est ça la question.
Je pense que c'est un petit jeu entre eux. Mais c'est un petit jeu entre eux, parce que je ne vois pas un gérant de hedge fund s'intéresser à la stabilité financière.
Parce que c'est le même, pour vous, c'est les deux font le même business.
Pour moi, c'est le même business.
Ce n'est pas tout à fait le même business, mais c'est vrai qu'un fonds spéculatif n'a pas de leçon à donner à un fonds d'investissement, parce que c'est presque pire, un fonds spéculatif.
Fonds spéculatif, c'est ceux qui prennent le plus de risques.
Vous considérez que ce que fait Larry Fink est potentiellement moins dangereux systémiquement que ce que fait un fonds spéculatif
Systémiquement, je n'irai pas jusque-là.
Et c'est plus sûr de faire de ce que fait Larry Fink.
Alors, je vais vous dire comment. Non, mais on a vu ce débat et franchement, moi, j'ai rien compris. J'ai pas compris ce qui se jouait entre eux. Non, mais c'est vrai. C'est pas habituel, si vous voulez, entre deux monstres de la finance. On n'a pas l'habitude de voir ça. Et alors, la manière dont ce débat a été interprété par les journalistes qui ont assisté, c'est de dire, Icahn, lui, quelque part, c'est quand même le méchant de l'histoire. Parce que lui, il fait en sorte que les entreprises crachent le plus possible de dividendes pour leurs actionnaires. Pardon, tandis que Fink, au moins dans le discours, est quelqu'un qui insiste beaucoup sur les investissements à long terme, la gestion à long terme, etc. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Alors, je dirais plusieurs choses.
Non, on peut le dire, si c'est la vérité. Si en fait BlackRock ne sont pas tout à fait les méchants de l'histoire, on peut le dire.
Je ne sais pas si je vais répondre à votre question. Peut-être en trois points. Le premier, peut-être que on peut différencier BlackRock et le gérant de hedge fund, donc je ne me souviens plus son nom.
Voilà.
Pourquoi ? Parce qu'un hedge fund, normalement, son épargne, elle vient de fortune personnelle. D'accord ? Et c'est pour ça, ils ne sont pas réglementés pour ça.
Pas que. Hein. Ils avaient des parts dans Apple.
Alors, non. Il faut bien distinguer d'où vient l'épargne des hedge funds. Ça vient généralement des fortunes personnelles. Et depuis le crack de 2001, des fonds de pension. D'accord ? Donc, on considère que c'est des investisseurs sophistiqués, ils prennent des risques et ils n'ont pas besoin d'être protégés. D'accord ? D'où vient l'épargne de BlackRock ? Ça vient d'une diversité d'épargnants.
Des fonctionnaires donc, californiens.
Exactement. En gros. Exactement. Et puis même, vous avez. Ça peut venir de petits épargnants.
Et de leurs propres employés aussi, d'ailleurs.
De leurs propres employés, etc. etc. Donc, ils ne font pas courir le même type de risque. Les hedge funds peuvent faire courir un risque systémique parce qu'ils prennent des positions très, très importantes sur des marchés de niche, typiquement la crise des subprimes. Pour BlackRock, c'est autre chose. C'est qu'ils ont. En fait, ils sont tellement gros, 6 trillions de dollars quand même, ils sont tellement gros qu'ils ont pris des positions sur toutes les sociétés, c'est pas seulement en France, mais dans tous les pays, et même s'ils détiennent que 5% ou 2%, ils sont actionnaires majoritaires. Donc ils peuvent...
À 5%, ils sont majoritaires ?
Bien sûr.
En tout cas, ils siègent au conseil d'administration.
Comment on peut être majoritaire à 5%?
Mais parce que le capital est totalement diffus, ce sont des sociétés cotées. Donc, ils ont des milliers ou des dizaines de milliers d'actionnaires. Donc, si vous détenez 1 ou 2%, vous êtes actionnaire majoritaire. Si vous êtes actionnaire majoritaire, vous pouvez avoir une influence sur la gouvernance et sur la stratégie d'investissement des firmes. Et c'est là que c'est dangereux.
Mais ce qui veut dire que le risque de BlackRock est plutôt un risque d'influence qu'un risque de type spéculatif, de type attention, ils détiennent des fonds pourris, ils détiennent
Exactement, c'est pas le même risque. Mais par exemple, si BlackRock décide de vendre des titres parce qu'il n'est pas content de la gestion d'une entreprise, de la stratégie d'investissement à court terme en général de l'entreprise, il peut décider de vendre ses titres. Et s'il vend ses titres alors qu'il détient des dizaines de milliers d'actions d'entreprise, eh bien ça peut provoquer un crack sur le marché.
Ils l'ont déjà fait ?
Alors, ils n'ont pas intérêt à le faire, mais en tout cas, c'est un chantage qu'ils peuvent faire auprès des entreprises.
Sylvie Matelli.
Je crois qu'il y a effectivement plusieurs choses, et ça complète ce que vous venez de dire. Sur le petit conflit entre ICANN et Larry Fink, moi, je pense qu'il y a aussi une question de part de marché. C'est-à-dire, les hedge funds étaient entre 2001 et 2008 les rois du pétrole, si vous me permettez l'expression. En 2008, tout ça se casse la figure. Les retraités américains se rendent compte, en tout cas les fonds de pension américains se rendent compte qu'on prend peut-être un peu trop de risques à placer l'épargne des retraités dans ces hedge funds, et ils repositionnent tout ça dans les grands fonds d'investissement ou dans les fonds d'investissement qui sont devenus énormes après la crise de 2008. Donc il y a peut-être une revanche à prendre pour les hedge funds, et c'est ce qui est tout à fait, c'est ce qui est en train d'exprimer M. ICANN en critiquant M. Fink. C'est effectivement extrêmement exagéré parce que, comme vous l'avez dit à très juste titre, le risque systémique et les risques pris par les hedge funds et par les fonds spéculatifs sont beaucoup, beaucoup plus importants que pour les fonds d'investissement. Par contre, on ne peut pas apprécier le risque financier des fonds d'investissement aujourd'hui parce que, 10 ans avant aujourd'hui, il n'était pas aussi gros, il n'était pas aussi systémique. Et donc, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le cas d'une grave crise économique qui affaiblirait tout un ensemble d'entreprises dans lesquelles ils ont investi. Mais par contre, là où je vous rejoins tout à fait, c'est que là où BlackRock présente un risque très important, c'est qu'aujourd'hui, on peut quasiment dire qu'ils sont les maîtres du monde. Ils sont présents dans toutes les entreprises, même à 5%, siègent dans tous les conseils d'administration. Je crois qu'aux États-Unis, ils siègent dans plus de 4000 conseils d'administration. Vous vous rendez compte? De boîtes qui sont parfois concurrentes. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous poursuivez votre intérêt financier, vous allez faire quoi? Vous allez conseiller à une boîte de ne pas innover dans ce domaine-là, parce que celle où vous êtes en train de, où vous avez aussi investi est beaucoup plus en avance et que vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Donc ça veut dire qu'ils vont pénaliser l'activité
économique. Est-ce qu'ils ont déjà été pris la main dans le sac là-dessus?
C'est difficile. C'est difficile à savoir. C'est difficile de le noter. Ce qui est certain, alors, c'est que...
Attendez, pourquoi c'est difficile? Parce que les conseils qu'ils donnent, les conseils qu'ils peuvent donner ou l'influence qu'ils peuvent exercer sur telle ou telle entreprise n'est pas publique.
Je pense que c'est peut-être même pas écrit. Allez savoir, je ne sais pas comment ça se passe dans
Non, on sait pas.
En tout cas, ce qui est certain, si vous regardez un petit peu l'évolution et les associés de BlackRock se retrouvent souvent à la tête de certaines entreprises. Ça s'est arrivé, alors j'ai plus le nom d'une entreprise il y a quelques mois, mais régulièrement, il y a quand même de tous les autres fonds d'investissement d'ailleurs, de temps en temps, sous prétexte que l'entreprise a besoin de conseils financiers, a besoin de faire évoluer sa stratégie financière, on place quelqu'un de chez BlackRock au sein de la société, qui n'est plus BlackRock, qui devient un salarié de la société, mais somme toute, c'est un échange de bons procédés qui questionne quelque peu.
Mais d'ailleurs, sur ces questions-là, si je ne me trompe pas, Jordan Pouille, on a une étude qui a été menée par des universités sur ces questions d'horizontalité, c'est-à-dire de participation à différentes entreprises. Et je ne suis pas absolument certaine que l'étude ait été bien prise et même qu'elle ait eu accès à tout ce dont elle avait besoin pour pouvoir étudier vraiment concrètement les conséquences.
BlackRock a fait de la rétention, c'est ça?
Non, je me demande, en fait, je sais qu'il y a une étude qui existe sur ce sujet et je me demande dans quelles conditions elle a pu être menée et elle a été accueillie.
Donc, c'est une étude menée par deux économistes de l'Université de Michigan qui s'étaient intéressés au secteur de l'aviation, en particulier américaine, et s'étaient rendu compte qu'ils avaient constaté en fait un alignement du prix des billets à la hausse et qui coïncidait avec une prise de participation sur la même période en fait de ces compagnies aériennes. Donc, en fait, bon, là je résume, mais eux pensaient qu'on pouvait y voir déjà une corrélation. Et ce qui a poussé l'Allemagne, l'autorité de la concurrence en Allemagne, à exprimer une inquiétude, à dire qu'il existait un risque potentiel de déformer la concurrence à travers des actionnariats horizontaux.
Et alors pourquoi BlackRock aurait poussé ces deux compagnies d'aviation à augmenter leurs tarifs? Quel aurait été l'intérêt de BlackRock à faire ça?
Si vous augmentez les tarifs, vous augmentez le chiffre d'affaires. Certes. Si vous augmentez le chiffre d'affaires, vous augmentez le bénéfice. Et donc,
Attendez, BlackRock, ils ne contrôlent pas toutes les compagnies aériennes du monde. Donc, s'ils en contrôlent deux et qu'elles augmentent leurs billets, les consommateurs vont peut-être aller sur les compagnies dont les billets sont moins chers.
Sauf si vous êtes présent dans toutes les compagnies.
C'est le cas?
Je ne sais pas pour les compagnies aériennes, mais ils sont présents dans beaucoup d'entreprises.
Oui,
ils sont dans tous les secteurs. Et dans...
Oui, mais enfin, attendez, vous êtes en train de me dire, voilà, ils contrôlent toutes les compagnies aériennes du monde. Je schématise, hein, je caricature, mais c'est ça que vous êtes en train de dire ?
Mais bien sûr, puisque ce sont des asset managers, c'est-à-dire que tous les fonds que vous connaissez, des assureurs, des fonds de pension, même vous, enfin, nous, on a des OPCVM. Des OPCVM, voilà, au million. Des fonds de pension, des compagnies d'assurance. Oui. En fait, ils ne gèrent pas directement. Ils passent par ces asset managers. Oui. Donc, toute l'épargne qui est collectée, vous vous rendez compte, l'épargne retraite de tous les pays du monde entier, puisque je vous dis que la France est le seul pays à avoir adopté un système de retraite par répartition à quasiment 100%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent ? Ben, ils achètent des actions.
Non, mais ça, on est d'accord.
Je reprends,
j'ai du mal à me figurer, si vous voulez, BlackRock en actionnaire influent dans la totalité d'un secteur économique, genre les compagnies d'aviation, et décidant, voilà, à partir de demain matin, on va augmenter les billets de toutes les compagnies du monde. Enfin, je veux dire, alors, sauf si on me démontre que ça marche comme ça, qu'il y a des exemples dans lesquels on a pu démontrer que ça marche comme ça.
Alors, je ne sais pas quel était l'échantillon de l'étude. Ça portait à l'échelle. C'était sur le. Est-ce que dans le document.
Les cinq principales compagnies aériennes américaines, dans lesquelles BlackRock avait des participations.
Ah, quand même, oui.
Les cinq principales.
Ah, quand même. Oui, oui. Ah, quand même.
Ouais, c'est pas rien.
Non, c'est pas rien.
Et je crois qu'en France, ils sont présents dans 20 entreprises du CAC 40, donc c'est la moitié du CAC 40, c'est pas si mal.
Oui, oui, on avait 20, c'est la moitié de 40. Oui, on a fait le. Comme quand vous êtes une mathématicienne.
Exactement.
Oui, c'est quand même. Alors donc, BlackRock, maître de l'économie mondiale, c'est pas totalement un fantasme.
Non, parce qu'ils sont actionnaires de ces entreprises.
Ils sont les seuls à cette échelle-là ou ils ont eux-mêmes des concurrents ?
Ils ont des concurrents. C'est les plus gros, hein, mais je crois que The Vanguard doit être le numéro 2. Ils sont à 2000 ou 3000.
Vous avez donc BlackRock, Vanguard, Fidelity et State.
D'accord. Alors, il y a une autre spécificité qu'on a découverte. Vous disiez une partie du risque consubstantiel à BlackRock, c'est l'influence. Et effectivement, le patron de BlackRock, Larry Fink, apparemment aime bien exercer ostensiblement cette influence et l'exerce en envoyant une lettre générale à toutes les compagnies dans lesquelles ils ont des participations chaque année. Mmh. Mais alors, c'est quoi cette lettre, Jordan Pouille ? C'est Larry Fink qui explique à toute l'économie mondiale dans quelle direction il faut aller.
C'est une lettre qui incite les gens à avoir une stratégie à long terme. C'est une lettre d'appel à la raison, en fait. C'est presque comme si Larry Fink s'achetait une sorte de politique, une sorte de... C'est comme s'il introduisait des valeurs humaines au sein des entreprises dans lesquelles il investit.
Mais par exemple, qu'est-ce qu'il préconise dans cette lettre ? C'est dada habituel, c'est quoi ?
Il préconise de ne pas penser uniquement aux dividendes.
Ah ben non, mais attendez, excusez-moi, j'essaye de raisonner avec des catégories simples. Il est du bon côté. Non, mais quand il va dire à des patrons, mes amis, ne pensez pas seulement aux dividendes, mais investissez pour le bien général de l'économie, il est du bon côté ou pas ?
Alors, distinguer le discours et puis...
Oui, tout à fait.
On va distinguer le discours et les actes, mais sur le discours...
C'est très habituel et très commun aux États-Unis que les patrons de grandes entreprises envoient à leurs salariés ce type de courrier en début d'année. C'est une lettre de vœux. Et c'est une lettre de vœux, on souhaite le meilleur à tout le monde. Est-ce qu'après on va le faire tout au long de l'année ? C'est une autre question. Mais c'est vrai qu'elles sont toujours très, très sympas, ces lettres, parce que on souhaite réduire les inégalités, on souhaite une croissance inclusive, on souhaite le développement durable et les objectifs du développement durable, on souhaite en finir avec ce capitalisme sauvage, etc. etc. Bon, après, vous regardez comme vous le disiez. Bah oui, c'est super sympa, mais vous regardez la vraie vie et la réalité, en fait, et vous vous rendez compte que c'est un peu plus compliqué que ça et que je ne suis pas sûre que BlackRock soit totalement colombe en la matière.
Jordan Pouille ?
Oui, et puis leur offre fait qu'ils doivent être présents dans un maximum d'entreprises prospères et c'est des gens aussi qui ont des parts même dans les producteurs de charbon chinois qui sont cotés à la bourse de Shenzhen ou dans les premiers fabricants d'armes américains. Donc, la morale est un peu relative.
D'accord. Il y a effectivement la main gauche et la main droite. Alors, toujours est-il que l'impression qu'on a quand même, c'est qu'ils font attention à l'image qu'ils vont donner à BlackRock, y compris dans les pays européens et y compris en France, comme on l'a constaté, Juliette.
Oui, alors en France, BlackRock aussi vante son engagement social. Ils ont d'ailleurs embauché spécialement une responsable de l'investissement durable et on l'entendait se réjouir, elle s'appelle Carole Croza, on l'entendait se réjouir de cet investissement durable sur le plateau de BFM Business le 10 décembre dernier.
BlackRock, bon, je rappelle quand même, on est sur BFM Business, mais tout de même, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, de plus en plus engagé aujourd'hui dans cet investissement durable, ce qu'on appelle l'ISR.
Oui, tout à fait. BlackRock est engagé depuis plusieurs années sur l'investissement responsable et on est en train de vivre aujourd'hui une période formidable qui est le fait que de plus en plus d'acteurs se rendent compte qu'on est à un point d'inflexion sur cet investissement. Il y a 500 milliards qui sont gérés avec des principes d'exclusion, notamment des armes controversées, par exemple du tabac ou alors des entreprises qui ne respectent pas les normes de droits de l'homme ou de droits du travail. Nous créons aussi des fonds thématiques, par exemple un fonds récemment lancé sur l'économie circulaire qui permet d'investir dans des sociétés qui participent à cette nouvelle économie. Donc, par exemple, ce fonds va comporter des valeurs telles que Tomra, qui va permettre de faire des collectes inversées de déchets accessibles à tous les consommateurs.
Des collectes inversées de déchets, quand même. Non mais attendez. Mais alors, qu'est-ce que vous dites? Vous dites tout ça, c'est du greenwashing, du durable washing, et que ce qu'il faut regarder, c'est la politique d'investissement concrète, et que là, ils investissent dans ce qu'il peut y avoir de plus polluant, de plus... Voilà.
Alors il y a deux choses. Donc il faut vraiment séparer le discours des actes. Et donc les actes pour un fonds d'investissement, c'est qui il va financer. Donc dans le discours, depuis 2015, Larry Fink répète que si on continue à financer et à imposer aux entreprises des exigences de rendement très élevées à court terme, on va dans le mur. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez sous pression vos entreprises comme ça, c'est-à-dire à délivrer de la performance à long terme pour après distribuer des dividendes, vous privilégiez forcément des projets qui sont rentables à court terme et pas à long terme. Et donc, si l'entreprise n'investit plus à long terme, elle n'est plus viable à long terme.
Mais c'est tout ce qu'on reproche à la financiarisation
alors,
de l'économie.
Larry Fink l'a dit en 2015, 2016, 2017. Je pense qu'il l'a répété en 2018. Mais qu'est-ce qu'on voit, en fait, à ces gérants? Qu'est-ce qu'il va dire? Vous sélectionnez les entreprises au regard de leur rentabilité financière la plus élevée à court terme.
On est certain qu'il dit ça à ses gérants? Il y a des écrits, on le sait?
Mais
je veux dire, comment on établit le double discours?
C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie. On peut mettre en avant des performances extra-financières, la rentabilité, la performance climatique, environnementale, on appelle ça les critères selon les critères ESG. Mais au final, entre une entreprise qui fait une belle performance climatique ou environnementale, tout ce que vous voulez, et qui performe moins bien qu'une entreprise qui a une bonne rentabilité financière à court terme, que va choisir le gérant de BlackRock? Celle qui performe le mieux. Donc, on peut mettre en avant ces critères.
Même si le patron a dit, il vaut mieux choisir les performances à long terme et réfléchir à long terme.
Parce que vous avez un risque de réputation, et on revient sur le plateau là, c'est ça. C'est la réputation. Que voulait faire le gérant de hedge fund? Il voulait attaquer la réputation de BlackRock pour lui prendre des parts de marché. Quelle est la légitimité d'un gérant de hedge fund à faire des beaux discours sur la stabilité financière?
Non, mais on est bien d'accord. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que sa belle lettre annuelle, super sympa, il l'a fait pour la réputation.
Cynisme, tout simplement.
Pas que, parce que c'est vrai que les temps sont en train de changer. C'est vrai que depuis 2008, toujours, l'investissement socialement responsable rapporte et rapporte de l'argent, que c'est peut-être l'avenir et ils sont aussi obligés de se projeter dans l'avenir. Et donc, partant de là, là où on a du cynisme, c'est que vous allez avoir des fonds d'investissement, comme des banques d'ailleurs, qui investissent encore majoritairement et massivement dans les énergies fossiles, et puis de l'autre côté, qui vont investir dans le renouvelable. C'est le principe. On investit dans tout ce qui rapporte. Alors, on l'habille d'un beau discours et d'un discours qui donne l'impression qu'on est des gens vraiment bien. Et là, c'est très cynique parce que ce n'est pas le cas. On est juste là pour faire des profits. Mais il n'empêche qu'à la base de tout ça...
Excusez-moi, on est là pour faire des profits et pour garantir, si possible, à long terme,
tout à fait,
les retraites des fonctionnaires californiens.
Et troisième élément...
Troisième élément, c'est aussi financer des entreprises. Si y a quand même derrière tout ça des besoins de financement des entreprises, alors le discours de ces fonds d'investissement, c'est de dire, bah, regardez, et effectivement, si vous regardez les comptes des entreprises qui sont financées massivement par ces fonds d'investissement, dont le capital est détenu plutôt par ces fonds d'investissement, vous avez en général une rentabilité économique et financière qui est en moyenne plus élevée que les autres entreprises. Vous avez de bons résultats. Simplement, c'est aussi, vous avez un autre pan de ou une autre façon de voir les choses. Ce sont aussi des entreprises qui pratiquent très régulièrement le rachat d'actions pour maintenir les cours de leurs actions extrêmement élevés et donc être attractives pour ces fonds. Rachat d'actions, je crois que c'est Boeing l'an passé ou il y a deux ans qui a racheté pour 1,4 milliard de dollars d'actions. C'est 1,4 milliard qui ne sont pas investis dans la R&D en fait. Et c'est ce que vous disiez au tout début de l'émission.
Alors quand on essaye de distinguer les paroles et les actes, il y a un domaine que vous avez particulièrement étudié, c'est les participations de BlackRock dans l'industrie de l'armement.
Tout à fait. Alors BlackRock est, bah, comme dans toute l'industrie en général, est très présent au capital des industriels de l'armement. Aux États-Unis, quasiment toutes les entreprises, les grandes entreprises, les majors du secteur sont concernées. En Europe, ça commence à monter en puissance, ça reste plus limité. Encore une fois, on est dans une logique financière d'un côté, industrielle de l'autre, des industriels qui ont besoin de financement, des fonds d'investissement qui proposent de participer à votre capital, donc de vous financer. Quand on sait et quand on revient sur ce qu'on décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire la forte présence de ces fonds au conseil d'administration des entreprises et donc potentiellement l'influence de ces fonds sur la stratégie des entreprises, ça peut réellement questionner. Et là, on touche du doigt ce qui pour moi est le principal problème ou la principale difficulté problématique de ces fonds d'investissement, c'est aujourd'hui le manque quasi total de régulation et de surveillance de la part des pouvoirs publics en réalité. Parce qu'au fond, qu'une entreprise ait besoin de financer et qu'il y ait des personnes ou des fonds pour financer ces entreprises, c'est dans l'ordre des choses. Qu'il y ait si peu de surveillance et de régulation de ces choses-là et de ces conflits d'intérêts, on peut parfois appeler ça comme ça, c'est beaucoup plus inquiétant.
Alors, vous avez prononcé un mot important, c'est régulation. Comment BlackRock et par qui est-elle régulée par rapport à la manière dont les banques sont régulées, par exemple, dont les banques sont régulées par les banques centrales?
Alors, les acteurs financiers les plus régulés, ce sont les banques et les assureurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils collectent nos dépôts, la banque crée de la monnaie, etc. etc. Donc, pour ça, elles ont un certain nombre d'exigences réglementaires, notamment du capital réglementaire, etc. Les fonds d'investissement sont beaucoup moins réglementés parce qu'ils ne font pas appel public à l'épargne, hein, comme les banques. Et ça, c'est généralement la première justification.
Si, quand même, ils collectent. Enfin, je veux dire, ils collectent l'épargne retraite des...
Oui, mais ce n'est pas le consommateur, en fait, directement.
je termine. Donc, les fonds de pension, parce qu'ils collectent les cotisations salariales, sont également très réglementés. Mais ce n'est pas la même chose que les banques.
D'accord.
Parce que l'épargne qu'ils collectent est une épargne qui est à long terme. Donc, que va faire le régulateur? Il va faire en sorte que le fonds de pension gère cette épargne dans l'intérêt exclusif de ses salariés. D'accord? Ça, c'est, donc, du coup, quelle est la forme de la réglementation? Ça va être, par exemple, il ne peut pas investir tout son portefeuille dans des actifs extrêmement risqués, dans des hedge funds, par exemple, ou dans du private equity. Donc, on va mettre des limites quantitatives, où on va s'assurer qu'il y a un processus de gestion des risques qui est en place. Donc, ça, c'est... Donc, en fait, souvent, la réglementation, elle est différente selon les fonds d'investissement. Et les fonds d'investissement sont moins réglementés que les fonds de pension, les assureurs et les banques.
OK. Jordan Poole, là-dessus, sur la régulation ou l'absence de régulation ou la moins régulation?
Ben, ce qu'on voit surtout, c'est que la régulation auprès des autorités des marchés financiers, c'est de signifier quand BlackRock prend 5 ou 10%, franchit un palier de 5% dans l'acquisition d'une entreprise cotée en bourse, ils sont obligés de faire une déclaration.
Ils la font ?
Oui, ils la font, ils sont tenus de le faire, sinon ils sont sanctionnés.
Mais là, il faudrait réduire en fait.
Voilà, et aussi par la réduction. Donc,
Il faudrait réduire, dit Sandra Rigaud. Ça veut dire quoi, il faudrait réduire?
Ce seuil. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, comme le capital est tellement diffus, le capital des sociétés cotées est tellement diffus, que peut-être même avec 1 ou 2%, vous êtes actionnaire majoritaire. Et donc, à partir du moment où vous êtes actionnaire majoritaire, vous avez forcément un accès privilégié à la direction de l'entreprise pour orienter la stratégie de l'entreprise.
Donc, il faudrait les contrôler mieux.
Il faudrait les contrôler mieux.
Ce serait au pouvoir de qui de les contrôler mieux? Ou de décider qu'il faut les contrôler mieux?
Vous l'avez dit, la plupart de ces fonds d'investissement sont américains. Et ce qui intéresse les États-Unis, bon, alors c'est évidemment la stabilité financière, mais c'est aussi la compétitivité de leurs institutions financières. Et donc, entre la stabilité et la compétitivité, c'est un équilibre difficile à trouver.
Est-ce que ça veut dire que la solution, c'est de faire des fonds d'investissement européens? Je sais qu'il existe un fonds d'investissement qui s'appelle Amundi, qui a été créé à partir de fonds de la Société Générale et du Crédit Agricole, mais qui pèse aujourd'hui seulement 1,4 000 milliards d'euros. Donc, qu'on met en comparaison avec les 7 000 milliards de dollars ou d'euros de BlackRock, pardon.
Alors, moi, la France peut créer son champion de la gestion d'actifs. Amundi, c'est le BlackRock français, quoi. C'est ça. Mais là encore, je reviens à ce que j'avais dit en début d'émission. Je crois qu'il faut revenir sur la croyance que la finance vraiment l'économie. C'est-à-dire telle qu'elle fonctionne actuellement, avec une épargne intermédiaire qui passe par plein d'intermédiaires qui sont rémunérés par des commissions qui sont très élevées et qui ne prennent pas le risque. Un gestionnaire d'actifs ne prend pas le risque de marché. Qui le prend? C'est celui qui lui a confié son épargne. D'accord? Et là où il y a un risque, donc il y a un risque pour l'épargnant et il y a un risque aussi pour l'entreprise, parce que ce gestionnaire d'actifs, quand il est actionnaire majoritaire, peut mettre l'entreprise sous pression. Sous quelle pression? Privilégier la rentabilité à court terme très élevée et donc des projets à court terme. Or, on a précisément, on va pas revenir sur le risque lié au changement climatique, on a besoin de financer des projets d'investissement productifs à long terme. Avec la finance et ses comportements court-termistes, ce n'est pas possible. Il y a vraiment un décalage entre l'horizon de placement de nos investisseurs, BlackRock, etc., et l'horizon d'investissement des entreprises, qui doit être de long terme.
Et ce que vous dites, c'est que BlackRock, en dépit de ses beaux discours, en dépit de ses lettres annuelles sympas, n'est pas moins court-termiste que les autres. C'est ce que vous dites?
C'est le plus court-termiste.
C'est le plus court-termiste.
Bien sûr, c'est l'archétype de l'investisseur court-termiste.
Non, mais attendez, il est plus court-termiste que le monsieur barbu qu'on a vu tout à l'heure, Carl Icahn, là, le gérant de...
Ok. Les hedge funds, c'est les plus court-termistes, mais c'est dans leur ADN, enfin, c'est l'objectif.
D'accord.
Les gestionnaires, les asset managers sont moins court-termistes, je suis d'accord, que les hedge funds, mais ils le sont quand même.
D'accord.
Et comme ils captent toute l'épargne des épargnants, individuels, mais qui passent par des intermédiaires, vous voyez bien, à force de déléguer l'épargne à des intermédiaires financiers, qui prennent des commissions toujours très élevées sans prendre le risque, le manque à gagner, il est pour l'épargnant. Comment il va faire pour gagner? D'accord? Donc ça veut dire, en amont de la chaîne, vous avez un épargnant qui n'est pas sûr de trouver un rendement par rapport à la raison pour laquelle il a mis son épargne auprès d'un intermédiaire financier. Et puis au bout de la chaîne, vous avez l'entreprise qui est sous pression. Donc c'est un système qui est vraiment très vicieux.
Très bien, merci à tous les trois pour cette émission extrêmement pédagogique. On a tout dit sur le sujet, enfin tout ce qu'il était possible.
On
a pas mal dit, on va donc en rester là. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. Et voilà, c'est terminé. Si vous avez regardé ou écouté cette émission sans être abonné, c'est que nos abonnés vous l'ont offerte. Sans abonné, pas d'arrêt sur image. Alors vous aussi, abonnez-vous.